Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Les nouveaux chemins se demandent quotidiennement ce qu'ils en pensent en compagnie de Pierre Folliet, Antoine Ravon, Tristan Grenassia, Géraldine Mosna-Savoie et Marianne Chassor, à la réalisation de Croissant Chaud cette semaine Anna El Fakir, à la lecture expérimentale Jean-Louis Jacopin, avec aujourd'hui à la prise de son Valérie Lavalard. À 10h51, ce sera l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui Le meilleur ou le vrai, Spinoza et l'idée de philosophie, le dernier livre du philosophe Philippe Danino, publié par les éditions de la Sorbonne. Qu'est-ce que la philosophie analytique ? 4e et dernière réponse aujourd'hui à cette question qui nous occupe depuis le début de cette semaine. Rappelez-vous, lundi, Pascal Angèle s'est demandé comment être sûr que nous avons demain. Mardi, François Recanati vous a expliqué en quel sens la phrase « la neige est blanche » signifie bien plus qu'on ne pense. Et hier, c'est Claudine Tiercelin qui a répondu à la question que vous vous êtes tous posée au moins une fois dans votre vie « sommes-nous des cerveaux dans une cuve ?» Et pour terminer cette semaine, une dernière question, et c'est mon invité qui va vous la poser. Qu'en pensez-vous ? C'est le titre de son ouvrage, ou plutôt que ressentez-vous ? Oui, vous, qui écoutez cette émission, qui avez votre réponse à apporter à ces questions, ainsi qu'au dilemme du tramway fou que vous allez découvrir dans un instant. Alors l'idée n'est pas de déballer ses opinions, mais de s'interroger sur la place des émotions dans la théorie morale, dans la philosophie morale et dans la philosophie même en général. Écoutez plutôt.
Qu'est-ce qui nous pousse à considérer tous les philosophes d'un œil à demi méfiant, à demi ironique ? Ce n'est pas leur innocence, bien qu'elle transparaisse à tout moment. Les erreurs dans lesquelles ils tombent et se fourvoient si fréquemment et si vite, en un mot, leurs enfantillages et leur puérilité. C'est leur manque de probité lorsque, tous en cœur, ils élèvent une grande clameur vertueuse pour peu que l'on touche même indirectement au problème de la sincérité. Ils se donnent tous pour des gens qui se seraient haussés jusqu'à leurs opinions propres par l'exercice spontané d'une dialectique froide, pure et divinement sereine, alors qu'ils ne font que défendre, avec des arguments découverts après coup, quelques thèses arbitraires, quelque idée gratuite, une intuition quelconque ou encore, le plus souvent, quelques vœux de leur cœur qu'ils ont fait passer préalablement au crible de l'abstraction. Ce sont tous des avocats, sans le savoir, et, par surcroît, des avocats de leurs préjugés qu'ils baptisent « vérité ». Ils sont très éloignés de ce courage de la conscience qui s'avoue ce qu'il en est, très éloignés de ce bon goût du courage qui donne à comprendre ce qu'il en est, soit pour prévenir un ami ou un ennemi, soit par générosité et pour se moquer de soi. La raide et vertueuse tartufferie avec laquelle le vieux Kant nous entraîne dans les méandres de la dialectique, pour nous amener, ou plutôt nous égarer jusque devant son impératif catégorique, ce spectacle nous fait sourire. Nous qui sommes pourtant difficiles, et nous n'éprouvons pas un mince plaisir à démasquer les fines ruses des vieux moralistes et faiseurs de sermons.
Bonjour Florian Kova.
Bonjour.
Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Vous êtes chercheur en philosophie et psychologie au Centre interfacultaire en sciences affectives de l'Université de Genève et l'auteur d'un ouvrage intitulé, je l'ai dit, « Qu'en pensez-vous ? Introduction à la philosophie expérimentale » qui est publié aux éditions Germina. Et c'est donc de philosophie expérimentale qu'il va être question aujourd'hui pour terminer cette semaine sur la philosophie analytique, ou plutôt pour se demander ce qu'est la philosophie analytique. Alors êtes-vous d'accord avec Nietzsche lorsqu'il exprime dans ce texte de « Par-delà le bien et le mal » qui vient d'ouvrir cette émission, interprétée par le comédien Jean-Louis Jacopin ? Disons que l'idée que les arguments philosophiques ne sont que des rationalisations a posteriori, et donc c'est en identifiant des formes d'intuition que l'on peut proposer une réflexion, même une théorie, disons, morale digne de ce nom.
Eh bien, je ne serais pas aussi radical que Nietzsche en généralisant le propos à tous les arguments philosophiques, mais il est évident qu'un certain nombre d'arguments philosophiques reposent sur des intuitions, ou voire même sont guidés par des intuitions. Nietzsche a en tête Kant, et on sait que quand on trace d'un côté l'édifice très abstrait de la pensée de Kant et ses applications morales à des cas concrets comme la masturbation, les relations sexuelles, les bâtards, il y a un décalage dans lequel on ne peut que sentir que la pensée du philosophe est contrainte par un certain nombre de certitudes non questionnées et qu'on appellerait justement intuitives. Donc ça, c'est les cas où il y a vraiment un biais qui est dû à des intuitions qui ne sont pas partie prenante de la réflexion philosophique, c'est-à-dire la réflexion philosophique est parasitée par des intuitions. Mais en fait, ce qui fait le lien entre la tradition philosophique, la philosophie analytique et ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie expérimentale, c'est justement le rôle des intuitions tel qu'il est explicitement pris en compte par la philosophie. Nietzsche met l'accent dans ce texte sur l'affect, sur la puissance des émotions, et cela rejoint un questionnement qui était déjà mis en avant par Hume, juste avant Kant, et qui a inspiré Kant, justement, c'est savoir comment la raison philosophique peut accéder à des vérités morales et à des principes moraux. Et Hume avait cette dichotomie qui est reprise largement chez Kant, selon laquelle la connaissance vient soit de l'expérience, c'est les sciences empiriques, soit de la raison, de la réflexion, des lois, de la logique, c'est tout ce qui est la mathématique pure, etc. Et ce que disait Hume, c'est bizarrement, la morale ne semble pas pouvoir venir purement de l'expérience, car ce que nous apprend l'expérience, la contemplation du monde, l'investigation empirique, c'est la façon dont le monde est. On peut constater que les gens volent, trichent, on peut faire des études empiriques à ce sujet, mais ça ne nous dit pas ce que nous devons faire, ça nous dit uniquement la façon dont le monde est. Alors, est-ce que c'est la raison ? Et Hume disait non, ça ne peut pas non plus être la raison. La raison ne peut nous apprendre des choses qu'en nous montrant qu'il y a des contradictions dans les concepts, et dit Hume, je peux dire qu'il est bien de torturer un enfant pour lui voler sa sucette. Ceci est totalement horrible et nous savons que ce n'est pas vrai, mais il n'y a pas de contradiction logique. Et donc Hume tombait dans cette question. Si ce n'est ni la raison, ni l'observation, les sens qui nous apprennent les règles morales, d'où viennent-elles? Et la conclusion à laquelle aboutissait Hume est proche de celle que Nietzsche défend dans celle, est que les principes moraux nous sont dictés par les émotions, en fait.
Il faut bien comprendre ici, et vous le dites, mais il faut bien l'avoir en tête, que ce qui nous intéresse, en tout cas dans le cadre de cette émission, mais aussi peut-être de manière emblématique dans la philosophie expérimentale, c'est la dimension morale de la philosophie. C'est comment, sur quoi, que ce soit la raison justement, ou les émotions, ou d'autres critères peut-être extérieurs, peut-on fonder ce que l'on nomme une morale et qui, par définition, se compose de certaines normes. Et donc, on peut comprendre, du coup, le caractère surprenant de vouloir fonder une réflexion morale sur quelque chose d'aussi vague, évanescent et difficile à définir comme l'intuition.
Oui, tout à fait. C'est parce que l'intuition n'a pas toujours été thématisée en tant qu'intuition. Elle avait des fondements plus solides. Donc, en fait, Hume lui-même ne cherche pas à fonder la morale. Donc, sa conclusion selon laquelle la morale vient des émotions ne le perturbe pas. Mais suivant les critiques de Hume, beaucoup de gens se sont posés la question de savoir sur quoi on pouvait fonder la morale, si elle n'était fondée ni sur des principes abstraits accessibles par la froide raison et les simples lois de la logique, ni sur l'observation. Et la méthode qui a en fait cours à travers toute l'histoire de la philosophie, y compris dans la philosophie analytique, c'est de prendre comme point de départ un certain nombre de certitudes morales partagées. Ce qu'on a fini par appeler les intuitions.
Donc voilà, par intuition, ouais. Il faut entendre certitudes morales partagées.
Voilà, disons que ce sont des certitudes qui elles sont intuitives au sens où elles ne découlent pas d'une théorie préalable. C'est-à-dire, je sais que c'est mal, par exemple, de torturer un enfant.
Parce que je le sens.
Parce que je le sens, c'est comme ça. Mmh. Je n'ai pas besoin d'une théorie pour justifier, je n'ai pas de justification, mais je le sais automatiquement. Et ce sont donc ces certitudes morales qui sont immédiates, donc qui ne dépendent d'aucune théorie et qui sont partagées, qui peuvent fournir une sorte de terrain d'entente pré-théorique sur la base desquelles défendent les différentes théories. C'est quelque chose, en fait, qu'on retrouve dans la philosophie antique. Déjà, c'est la méthode platonicienne. Par exemple, au livre 1 de la République, Socrate, avec un certain nombre de jeunes Athéniens, s'interroge sur ce qu'est la justice et ce qu'est le juste. Et c'est à ce moment-là que Céphale, un des invités présents, dit « Voilà, la justice, c'est en fait ne jamais mentir, toujours dire la vérité, et rendre aux gens ce qu'ils nous ont donné, c'est-à-dire le bien aux amis et le mal aux ennemis. » Socrate prend acte de cette définition et dit « Voilà, mais imagine maintenant qu'un de tes amis t'ait confié ses armes, pour une raison ou une autre, et quelque temps après, il revient. Il est devenu complètement fou, il a perdu la raison, et te demande où tu as mis ses armes et de te les rendre. Dans ce cas-là, serait-ce juste de lui rendre ses armes et de lui dire la vérité sur l'emplacement de ses armes ? Et là, Céphale, l'interlocuteur de Socrate, est perturbé, dit « Non, effectivement, ce ne serait pas juste, et donc ma définition de la justice est mauvaise. » Mais ce qui est fascinant dans ce passage, c'est que Socrate et Céphale, tous les deux cherchent une définition de la justice. Ils n'ont pas déjà de théorie de la justice, mais ils savent dans ce cas particulier, dans cette expérience de pensée que Socrate a construite de toutes pièces, ce qui est juste ou pas. Mais cette certitude ne se base pas sur une théorie préalable, puisqu'elle est justement utilisée pour discuter et parvenir à une théorie. C'est donc ceci que sont les intuitions en philosophie, ce sont sans cesse ces certitudes immédiates et partagées sur la base desquelles discuter les différentes propositions et théories morales.
Alors je vous propose qu'on passe à l'examen d'un cas particulier, hein. C'est souvent comme ça qu'on procède déjà en philosophie, puis en philosophie analytique de manière encore plus présente, on l'a vu cette semaine, et alors dans le cas de la philosophie expérimentale qui nous occupe aujourd'hui, c'est encore plus flagrant. Nous avons décidé ensemble de partir d'un exemple, c'est le dilemme du tramway fou qui permet de prendre la mesure de l'importance de l'intuition et de l'émotion, même si on va essayer de distinguer les deux, dans l'élaboration d'une réflexion, disons, morale. Écoutons-le. Détourné. Un tramway vide, sans passager ni conducteur, roule à vive allure le long d'une voie de chemin de fer. 5 personnes se trouvent sur cette voie. Sur une voie secondaire se trouve une 6e personne. Si rien n'est fait, le tramway poursuivra sa trajectoire sur la voie principale et causera la mort des 5 personnes. Un homme, nommé Jean, se trouve près des voies et comprend ce qui est en train de se passer. Il se trouve près d'un levier qui peut orienter le tramway vers la voie secondaire. Jean voit qu'il peut éviter la mort des 5 personnes en actionnant le levier, ce qui orientera le tramway vers la voie secondaire. Mais ce faisant, le tramway ira percuter la 6e personne, ce qui causera sa mort. Jean a-t-il moralement le droit de détourner le tramway sur la voie secondaire ? Oui ou non ? Poussé. Un tramway vide, sans passagers ni conducteur, roule à vive allure le long d'une voie de chemin de fer. 5 personnes se trouvent sur cette voie. Si rien n'est fait, le tramway poursuivra sa trajectoire sur la voie principale et causera la mort des 5 personnes. Il est possible d'éviter ces 5 morts. Un homme, nommé Jean, se trouve sur un pont au-dessus de la voie de chemin de fer et comprend qu'il peut éviter la mort des 5 personnes en freinant le tramway avec un objet très lourd. Un homme, énorme, se trouve sur le pont à côté de Jean. La seule façon de freiner le tramway consiste à pousser cet homme sur la voie, sous les roues du tramway. Mais ce faisant, le tramway le percutera et causera sa mort. Jean a-t-il moralement le droit de pousser l'homme énorme depuis le pont ? Oui ou non ? Florian Kova, pour répondre à ces questions, chaque auditeur peut se demander la réaction spontanée qu'il a eue à l'écoute de ces deux passages, qui sont différents, vous nous direz en quoi, et voir en quel sens, finalement, la réaction va induire le choix de la réponse, oui ou non, peut-on sacrifier un homme pour en sauver 5 autres ?
Oui, tout à fait. Donc, le dilemme du tramway est une expérience de pensée qui a connu une popularité grandissante dans les 10 dernières années, qui a fait l'objet de nombreuses études. Et il se trouve que... Quand les gens écoutent ces deux dilemmes, donc dans le premier où il s'agit de détourner le tramway pour sauver 5 personnes, mais en se faisant causant la mort d'une personne, la plupart des gens trouvent moralement acceptable de détourner le tramway, donc de causer la mort d'une personne pour en sauver 5. Ce qui est étonnant, ce n'est pas cette réponse en tant que telle, mais le fait que quand on compare maintenant au deuxième scénario, celui dans lequel il faut pousser quelqu'un sous les roues du tramway pour l'arrêter, donc toujours encore une fois sacrifier une personne pour en sauver 5, la plupart des gens trouve que c'est moralement inacceptable. Donc il y a cette énorme différence dans les réactions des gens aux deux cas. Bien sûr, il y a des gens qui répondent non aux deux cas, oui aux deux cas, mais ce qui est important, c'est la régularité statistique. 80% des gens trouvent acceptable de détourner le train, 10% seulement trouvent acceptable de pousser un homme sous les roues du train. Et la question qui a été posée récemment, c'est de savoir à quoi était due cette différence, justement. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces expériences de pensée qui font l'objet de nombreuses études psychologiques, neuroscientifiques, sociologiques de nos jours, en fait, viennent de la philosophie analytique et ont été discutées dans les années 70 par un certain nombre de philosophes pour discuter justement de la permissibilité morale de l'avortement. Et c'est justement ça qui est intéressant dans ces études, c'est que elles n'ont l'air d'avoir aucun rapport avec la question d'origine, et ça démontre la technique philosophique, la méthode philosophique disant Quand il y a beaucoup trop d'enjeux émotionnels, sociaux sur une question, on va essayer de régler ces questions en testant les intuitions des gens sur des expériences de pensée différentes. En l'occurrence, le contraste entre ces deux scénarios était utilisé pour illustrer ce qu'on appelle en philosophie la doctrine du double effet, qui est un nom assez compliqué pour décrire l'idée selon laquelle il peut être moralement permissible de sacrifier une personne pour en sauver cinq, mais uniquement quand la mort de cette personne n'est qu'un effet secondaire de votre action et pas un moyen mis en œuvre.
Donc l'idée... là, c'est quand même le résultat d'un calcul, c'est pas simplement l'interprétation d'une émotion, en l'occurrence.
Voilà,
parce qu'on affirme ça.
Voilà, l'idée, c'est que selon cette théorie, la différence serait due à un principe vraiment... un principe moral. Ce serait la traduction de l'impératif kantien selon laquelle il ne faut jamais traiter une personne comme un moyen. L'idée, c'est que quand vous détournez le train et qu'il écrase une personne, votre action, c'est de sauver cinq personnes. C'est un effet secondaire qu'une personne soit sacrifiée, mais ce n'est pas un moyen de votre action. Quand vous poussez une personne, vous utilisez cette personne comme un moyen. Donc la différence entre les deux cas pourrait être expliquée par cette loi morale gravée dans les reins sur laquelle il ne faut jamais traiter une personne comme un moyen. Et donc c'est un exemple du type d'intuition qui a été utilisé en philosophie analytique pour réfléchir sur un certain nombre de domaines, l'avortement, mais aussi la question de guerre juste, savoir si on peut bombarder une base militaire, par exemple, sachant que ça causera des guerres civiles. C'est tout le problème, toutes ces expériences de pensée sont censées illustrer le problème des effets secondaires versus les moyens quand il s'agit de causer des morts. Et il se trouve que maintenant, ces expériences de pensée qui ont été vraiment créées dans ces contextes particuliers ont été prises d'une certaine façon décontextualisées au début des années 2000 par un certain nombre de psychologues et de philosophes d'une sorte d'essor de ce qu'on appelle en psychologie morale l'intuitionnisme. C'est-à-dire, pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, la psychologie morale a emboîté le pas à la philosophie en suivant Piaget et ses successeurs, en pensant que le développement moral et le développement de la réflexion morale étaient avant tout un développement de la raison. On passait de l'enfant égoïste et centré sur lui-même à l'individu altruiste et réfléchissant sur la base de principes moraux par un développement de la réflexion. Et il y a eu une rupture avec ce paradigme au sein de la psychologie elle-même qui a mis le poids sur l'intuition en disant en fait, la plupart, comme disait Nietzsche dans le texte que nous avons entendu au départ, les raisonnements moraux, c'est beau, nous s'en faisons, mais ils ne jouent aucun rôle véritable. La plupart du temps, ce sont juste des rationalisations a posteriori, des justifications, des façons de défendre des intuitions qui nous viennent immédiatement et ceux qui jouent le poids le plus important dans la réflexion morale, ce sont en fait ces intuitions. Et le dilemme du trolley a été utilisé pour défendre cette théorie parce qu'il a une particularité très intéressante. Il y a deux particularités très intéressantes. La première, c'est voilà, il y a cette différence entre les deux cas. Cette différence semble très largement distribuée. Le dilemme du trolley a été testé dans de très nombreux pays, dans de très nombreuses cultures, y compris les Indiens mayas, donc des gens qui ont moins de contact, qui n'ont pas de contact avec la civilisation directement. Et la différence entre ces deux cas elle reste toujours aussi grande. Il y a vraiment toujours les gens ont toujours cette intuition qu'un cas est acceptable et pas l'autre. Et ce qui a aussi intéressé, c'est que la plupart des gens qui répondent différemment aux deux cas, donc la plupart des gens, ne sont pas capables de donner de justification d'emblée à cette différence. C'est-à-dire qu'ils constatent qu'ils donnent deux réponses différentes dans les deux cas, mais ils ne sont pas capables d'articuler pourquoi, en fait. Donc, c'est ça qu'ont fait les études. Elles ne se sont pas seulement intéressées à la façon dont les gens répondent et à constater cette différence, elles ont aussi étudié la capacité des gens à répondre à ces questions, à justifier ses choix, et la plupart des gens sont incapables de justifier. Ils peuvent réfléchir après et trouver une justification, la plupart sont capables, mais d'emblée, l'intuition, la différence entre les deux cas, arrive à leur conscience avant qu'il n'ait une justification. Donc l'idée, c'est que ces jugements ne dépendent pas d'une règle morale qu'ils auraient en tête et qu'ils appliqueraient. Au contraire, les intuitions seraient premières et on trouverait ensuite des règles pour les justifier.
Nous allons essayer de t'aider à trouver un moyen pour remplacer les rideaux et les serviettes, mais notre confiance en toi, Edouard, ne va pas être si facile à remplacer.
Pas.
Ok, un test de morale. Tu marches dans la rue et tu trouves une valise pleine d'argent. Il n'y a personne alentour. Ni homme, ni policier, c'est le désert. Qu'est-ce que tu fais? A. Tu gardes l'argent. B. Tu t'en sers pour acheter des cadeaux à tes amis et à ceux que tu aimes. C. Tu le donnes aux pauvres. D. Tu vas le rendre à la police.
Non, c'est un jeu complètement imbécile.
Kim, je le garderai, moi.
S'il te plaît, Kevin.
Merci, chérie. Edouard, nous attendons.
Je le donne à mes amis que j'aime.
Oh, Edouard, quel beau rêve ce serait. Il me semble que c'est ce qu'on devrait faire, mais ça reste un rêve.
Idiot, tout le monde sait qu'on est supposé aller le remettre à la police.
Bien raisonné, Kevin.
Vous devriez bien y réfléchir, tous. Je veux dire, il a choisi d'être gentil, c'est très touchant. Moi, c'est ce que je ferais.
Nous ne cherchons pas à l'embrouiller, Kimby, mais à lui simplifier les choses. Alors je t'en prie, arrête cette comédie un instant, tu veux ?
Je n'ai pas dit ça en l'air, tu sais, je pense que c'est très gentil de faire ça.
Là n'est pas la question, il s'agit de différencier le bien du mal.
Oh, la ferme ! Oh, Seigneur Dieu, ce n'est pas étonnant que le pauvre Édouard ne puisse discerner le bien du mal en vivant dans cette famille.
France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, Adèle Van Rett.
Florian Kova, si on essaye de définir un peu plus précisément le rôle de l'intuition dans une réflexion morale et le rôle qu'on lui fait jouer notamment en philosophie expérimentale, et si on s'arrête un instant sur cet extrait d'Édouard aux mains d'argent qu'on vient d'entendre, hein, le film de Tim Burton, où le but est d'éduquer Édouard de manière, disons, morale, de lui inculquer une forme de jugement moral, et on voit comment chacun des membres de la famille répond différemment. L'enfant dit « mais on sait bien que la société voudrait qu'on le rende à l'argent à la police », la mère dit « non mais c'est très gentil de vouloir donner l'argent à ses amis, c'est son cœur qui parle », et le père qui dit « non mais il s'agit d'une éducation morale », on a trois angles différents finalement sur le même problème. À partir de cette situation, de cette expérience de pensée, au fond, c'en est une aussi, hein, comme souvent la littérature, eh bien, la question qu'on pourrait se poser, c'est celle de savoir, au fond, dans quelle mesure cette méthode qu'est la philosophie expérimentale se distingue d'une approche, disons, simplement, entre guillemets, psychologique. Puisqu'en termes de statistiques, voilà la réaction des uns, des autres, finalement dans un relativisme moral, puisque la théorie est toujours secondaire. Mais dans ce cas, qu'est-ce que votre démarche apporte de plus à disons une démarche qui serait d'ordre purement psychologique.
Oui, pour tout ce qui est de l'enquête empirique, les méthodes de la philosophie expérimentale sont psychologiques, voire sociologiques selon les méthodes. Ce qui en fait de la philosophie expérimentale, c'est l'angle, l'intérêt. C'est-à-dire que l'intérêt des philosophes expérimentaux n'est pas tant de développer des statistiques sur les opinions morales ou une théorie psychologique du jugement moral, même si cela serait intéressant, c'est de prendre des intuitions qui sont utilisées en philosophie et qui sont présentées comme des fondements ou des arguments pour certaines théories, et ensuite décortiquer ces intuitions avec plusieurs questions. La première question, par exemple, c'est, voilà, certains philosophes utilisent cette intuition pour défendre ou attaquer telle théorie, mais cette intuition est-elle déjà partagée, en fait ? L'idée, c'est que la philosophie est une discipline à prétention universelle. Quand les philosophes moraux construisent une théorie morale, elle veut qu'elle soit valide universellement. Ce n'est pas juste une morale personnelle. Donc si, à partir du moment où les intuitions jouent un rôle dans la justification des théories, il est important que ces intuitions soient partagées. Sinon, la plupart des gens ne pourraient pas partager l'argument du philosophe. Mais aussi, et plus, ce qui est le plus souvent, en fait, ce à quoi s'intéressent les philosophes expérimentaux, c'est la nature de ces intuitions. C'est-à-dire, quels sont les processus psychologiques, d'où viennent ces intuitions ? Et l'espoir est que, quelque part, certaines intuitions puissent être disqualifiées et d'autres revalorisées en fonction des processus mentaux qui se cachent derrière. En ce sens, les philosophes expérimentaux se réclament, en fait, par-delà la philosophie analytique, ils se réclament surtout de la philosophie du 19e siècle, avec des gens comme Nietzsche, qui pensaient que une enquête psychologique dans la genèse des principes moraux pouvait aider à disqualifier certains principes moraux, parce que ceux-ci seraient basés sur des processus psychologiques comme l'envie, la jalousie, ou sur des processus psychologiques peu fiables, en fait.
Et en même temps, c'est Nietzsche lui-même qui, justement, remet en question toute entreprise de justification morale, puisque c'est la morale elle-même qui pose un problème. Donc forcément, si on va voir du côté de Nietzsche, on va dissoudre toute une entreprise de justification morale.
Voilà, donc tout dépend. Il y a effectivement une part de philosophes expérimentaux qui sont des sceptiques.
Voilà, comment ne pas l'être après ce que vous dites en réalité ?
Eh bien, tout dépend de leur théorie sur les intuitions morales. Certains ont une théorie selon laquelle les intuitions morales sont par essence instables, non fiables. D'autres ont des théories selon lesquelles certaines intuitions sont fiables, mais pas d'autres, ce qui apporterait du grain à moudre à certaines théories morales, mais pas à celles qui reposeraient sur les intuitions moins fiables. C'est un mouvement, en fait. La philosophie expérimentale a l'air d'être une entreprise très neuve, mais elle vient juste apporter la méthode expérimentale à ce qui est en fait un très vieux mouvement argumentatif en philosophie. Celui de dire, voilà, cette théorie est supportée par les intuitions, mais ces intuitions-là ne sont pas fiables. Un exemple classique qu'on retrouve en philosophie analytique, par exemple, c'est l'argument de Peter Singer pour dire que nous avons tous le devoir de donner une grosse partie de notre salaire aux associations humanitaires, qui va justement, un peu comme le dilemme du tramway, en comparant deux expériences de pensée qui sont censées être similaires. Donc, Peter Singer commence par vous demander, imaginez, voilà, vous marchez le long d'une rivière, rivière peu profonde, et vous voyez un enfant en train de se noyer à l'intérieur, un très jeune enfant. Vous pouvez aller le sauver très simplement en marchant dans la rivière. Vous avez pied. Mais le problème, c'est que si vous faites cela, vous allez ruiner vos chaussures et votre nouveau costume à 300 euros. Bon, est-ce que vous avez le devoir moral de sauver l'enfant, étant donné que cela va vous coûter 300 euros de tailleur ou de teinturier? Là, Peter Singer dit, là, dans ce cas-là, vous avez l'intuition, tout le monde a l'intuition que oui, vous avez le devoir de le faire. Okay. Et dit, maintenant, imaginez que ce même homme ou vous-même rentrez chez vous après une journée de travail et vous trouvez dans votre boîte aux lettres une lettre de l'UNICEF ou de toute autre association humanitaire qui vous dit, voilà, si vous donnez 50 euros à l'UNICEF, nous pouvons acheter des vaccins qui sauveront la vie de 20 enfants. Est-ce que vous avez le devoir moral de sauver cet enfant, de donner l'argent à l'UNICEF pour sauver ses enfants? Là, l'idée, c'est que la plupart des gens ont l'intuition que non. Mais ce que dit Peter Singer, c'est justement que quand on compare ces deux types d'intuitions, on voit qu'elles ne sont pas compatibles. Et on peut commencer justement à faire une théorie pour savoir laquelle des intuitions est la bonne. Et c'est ce qu'ont fait d'autres gens après Peter Singer lui-même et d'autres philosophes analytiques qui ont essayé de défendre l'idée selon laquelle la bonne intuition, c'est celle selon laquelle on a le devoir de donner l'argent, y compris à l'UNICEF pour sauver des enfants, et que l'intuition selon laquelle on n'aurait pas à donner l'argent à l'UNICEF et repose sur des ressorts psychologiques douteux. Par exemple, l'égoïsme, ou alors le sentiment que ces enfants sont trop loin, donc c'est pas notre affaire, ou alors le sentiment que les enfants qui sont en train de mourir dans les pays du tiers-monde sont tellement nombreux que notre aide ne serait qu'une petite goutte dans l'océan et serait insignifiante. Donc il y a toutes ces... Déjà dans ces textes qui remontent aux années 70-80, on retrouve ce mouvement qui est de dire, voilà, la réflexion philosophique ne peut pas juste se baser sur le fait de comparer les intuitions, elle doit essayer de trouver quelles intuitions sont fiables et quelles ne le sont pas.
Là, du coup, c'est un peu paradoxal, parce que si la démarche consiste à partir des intuitions pour retracer la genèse de jugements moraux, alors on ne peut pas, à partir de l'intuition, la qualifier de bonne ou de mauvaise, parce que c'est appliquer ce qui est censé être le résultat auquel doit parvenir la démarche qu'on est en train de mettre en œuvre. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, tout à fait. L'idée, c'est que ce n'est pas complètement circulaire. Donc, la plupart des philosophes qui adaptent cette méthode acceptent l'idée qu'il y a des principes qui sont partagés, et que ce sont principes qui vont nous permettre de voir quelle intuition est mauvaise.
Ah voilà, donc les intuitions ne suffisent pas, c'est des intuitions plus des principes pour pouvoir prouver.
L'idée, c'est qu'on peut faire jouer certaines intuitions contre les autres en injectant des théories psychologiques dans le sujet. Par exemple, l'idée de Singer était que l'idée qu'on n'a pas de devoir envers les enfants du tiers-monde repose sur le ressort psychologique qui est qu'on s'occupe moins des gens qui sont loin de nous, spatialement. Et il dit, une fois qu'on a vu que l'intuition reposait là-dessus, on voit que cette intuition s'oppose à l'intuition selon laquelle la morale est impartiale et que nous n'avons pas plus de raisons de s'occuper des enfants ici que des enfants là-bas. Et donc finalement, on peut faire jouer cette intuition contre cette autre intuition. L'idée, c'est que la méthode expérimentale ne vient jamais toute seule régler les problèmes moraux. Il y a vraiment une poignée de gens qui ont vraiment cette vision très positiviste, mais c'est vraiment mineur. L'idée, c'est que la méthode expérimentale est un outil en plus dans la philosophie morale qui va aider à trouver un équilibre entre nos intuitions conflictuelles en nous indiquant lesquelles sont à ne pas prendre en compte et lesquelles sont plus fiables et à prendre en compte.
Tu préfères avoir la grippe toute ta vie, tu guéris jamais, ou à vie, t'as 30 canards qui te suivent partout? Qu'est-ce que tu préfères? Ah, bah attends pour répondre, hein, parce que bon, la grippe, d'accord, c'est pas... Mais 30 canards, quand je dis partout, c'est partout. Hein. C'est-à-dire au cinéma, c'est 30 places, au restaurant, pareil, aux toilettes, je n'en parle même pas, et dans un lit, 30 canards. Alors? Bon, mais oublie, d'accord, je suis allé trop loin. Ok, voilà. Tu préfères, à vie, avoir une tête de veau ou deux bras de 9 mètres? Comment ça, c'est pas possible? Ben si, c'est possible. T'as une tête de veau, c'est possible, ça. Mais attention, hein, tu gardes ta voix, hein, c'est toujours toi. Hein. Tout le monde te reconnaît, tu dis bonjour normalement, mais t'as une tête de veau. Ou deux bras de 9 mètres. Qu'est-ce que tu préfères? Bon, alors, tu préfères à vie avoir un avant de Twingo greffé là, comme ça, ou chaque fois que tu parles, t'as un rat qui sort de ta bouche. Qu'est-ce que tu préfères? Non, mais attends, réponds pas tout de suite, hein, parce que après, c'est à vie.
Thank you. toute seule, je me dis Dieu, ce serait bon de partager mon lit avec un garçon. Quand je partage mon lit avec un garçon, je me dis dormir toute seule, Dieu, ce serait bon. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant. C'est tellement troublant, laissez-moi dormir quand chez l'Indien.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrée à la philosophie analytique. Et pour l'occasion, j'ai le grand plaisir de recevoir le philosophe Florian Cova, auteur d'un ouvrage intitulé « Qu'en pensez-vous ? Introduction à la philosophie expérimentale » paru chez Germinal.
Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant. Je vous le fais pas dire. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir. C'est tellement troublant. Laissez-moi dormir quand je veux me jeter du fond du.
Florian Cova, c'est l'extrait du sketch de Pierre Palmade que nous avons écouté, en plus d'être très drôle quand même. Je pense que toutes les personnes auxquelles on l'a fait écouter, il n'y en a aucune qui n'a pas souri ou ri. A le mérite également de formuler peut-être une objection à la méthode que vous présentez, celle de la philosophie expérimentale, à savoir son caractère exagérément artificiel. En réalité, le dilemme du tramway ou même les autres exemples que vous avez pris sont des situations auxquelles nous sommes rarement confrontés, même statistiquement, dans la vie. Et lorsque nous y sommes, nous devons souvent agir dans l'urgence, sans avoir le temps d'élaborer une réflexion morale, en sachant voilà, si j'agis selon le bien institué comme tel par la société, selon mon intuition, selon autre chose. Donc en réalité, dans quelle mesure est-ce que cette méthode-là est vraiment représentative de la morale, disons, réelle par réelle, j'entends vraiment expérimentale, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, c'est la méthode, c'est la philosophie expérimentale.
Oui, très bien, c'est effectivement une objection valide.
Je vous remercie.
Il y a deux choses à différencier dans l'objection. La première, celle du contexte, disant que la vraie morale, c'est celle qu'on a dans le contexte immédiat de l'action, etc. Je pense qu'en fait, ce n'est pas complètement vrai. Déjà, en fait, les philosophes expérimentaux s'intéressent aux intuitions qui sont utilisées dans la réflexion philosophique, ce que certains philosophes analytiques comme John Rawls ont appelé les jugements bien considérés, c'est-à-dire les jugements qu'on fait dans un contexte où on a le temps de la réflexion. Donc en fait, c'est ça qu'ils étudient. Ils n'ont pas la prétention d'étudier l'acte moral ou la réflexion morale dans l'acte. Ils ont vraiment pour prétention d'étudier l'intuition morale dans un contexte plus détaché. La deuxième, c'est qu'en fait, je pense que la plupart des jugements moraux, ne parlons pas de la morale, parce que la morale intègre beaucoup de choses, la vertu, l'action morale, mais les jugements moraux, le fait de porter un jugement, je pense que la plupart des jugements moraux que nous portons dans la vie de tous les jours, en fait, sont d'un point de vue détaché. La plupart des jugements moraux que nous portons, c'est ceux que nous portons après avoir vu le journal télé, en racontant près de la machine à café le comportement de tel ou tel de vos collègues. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais il y a tout un débat aujourd'hui en psychologie pour savoir quelle est la fonction du jugement moral. Effectivement, il y a une théorie classique sur laquelle la fonction du jugement moral, c'est l'action personnelle. C'est d'abord ça, c'est d'abord nous aider à agir. Mais en fait, beaucoup de psychologues pensent que maintenant, si nous avons évolué une disposition à être moraliste, au sens où nous parlons beaucoup du comportement des autres et nous faisons beaucoup de jugement moral, nous passons notre temps à évaluer les gens, ce n'est pas pour agir, mais plus pour choisir avec qui nous allons interagir, en fait. Et de ce point de vue-là, un jugement moral en troisième personne qui n'est pas relié directement à une action personnelle est tout aussi représentatif, voire plus de la morale ordinaire que le jugement moral qui précède l'action. Ensuite, il y a un autre problème qui est celui du dilemme lui-même. Pas celui du contexte, mais celui du dilemme lui-même, qui a l'air complètement absurde. Enfin, toute proportion prise, il y a des expériences de pensée qui sont largement plus absurdes que celles-là. Mais il est vrai que par rapport à un cas particulier, le dilemme du tramway a l'air un peu artificiel. Il faut savoir qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez artificiel dans le dilemme du tramway. Il est devenu très populaire, il est utilisé maintenant en psychologie partout pour étudier la morale, et c'est vraiment parce qu'il a eu... Il y a ce côté un peu étonnant au problème qui capture l'intention. Mais il est vrai que son application dans les domaines extérieurs n'est pas tout de suite évidente. Certains ont pris le dilemme du tramway comme, ils appellent ça une drosophile de la pensée morale. Ce serait vraiment un cas qui serait très simple et facile à décortiquer, donc qui permettrait de généraliser ce que nous apprenons à son sujet à d'autres domaines. Mais effectivement, il y a tout un ensemble de philosophes expérimentaux qui sont intéressés à des cas beaucoup plus concrets. Par exemple, la préférence pour l'euthanasie passive sur l'euthanasie active, c'est-à-dire le phénomène suivant qui a été assez étudié, qui est que, quelle que soit votre position sur l'euthanasie active et quelle que soit votre position sur l'euthanasie passive, que vous trouviez ça acceptable ou pas, la plupart des gens trouvent de toute façon l'euthanasie passive plus acceptable que l'euthanasie active, ce qui est aussi une sorte d'intuition que les philosophes expérimentaux ont étudié, ainsi que la résistance au fait de faire vacciner ses enfants. Donc il y a des cas concrets qui sont étudiés par les philosophes expérimentaux, avec les mêmes buts, les mêmes méthodes que qui ont été utilisées pour étudier le dilemme du tramway. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu artificiel au dilemme du tramway, mais je ne pense pas que c'est une limite de la philosophie expérimentale en général.
Alors si on peut essayer d'en trouver une autre, parce que je vous laisserai la défendre, hein, c'est la limite, c'est peut-être comme ça qu'on peut essayer de comprendre cette démarche-là, ce serait celle de dire que, est-ce que cette intuition qui est prise comme objet d'étude, y compris par, depuis une observation empirique statistique, disons, dans quelle mesure cette intuition-là n'est pas elle-même le produit d'une construction? C'est-à-dire que, est-ce que le philosophe expérimental va être forcément naturaliste et penser que finalement c'est le cerveau lui-même, tel cerveau va produire tel genre de réaction, cerveau ou je ne sais pas où est-ce que ça peut se passer d'autre d'ailleurs, et tel autre cerveau va produire tel genre de réaction, ou est-ce qu'au contraire, on peut reconnaître que dans ce qu'on entend par l'intuition est toujours une forme d'interprétation et de réaction à un phénomène qui est lui et de l'ordre de la pensée, de la théorie, mais pas seulement le discours ambiant que l'on tient, le bien c'est ça, le bien serait de rendre l'argent qu'on a trouvé à la police, eh bien, par une forme de, je sais pas, de darwinisme social ou autre, eh bien, ça devient finalement la réaction première, non pas parce que c'est naturel, mais parce que c'est ce qu'il y a de plus spontané.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'engagement sur le fait que les intuitions soient naturelles au sens où elles seraient innées. L'idée, c'est que l'intuition est par définition naturelle au sens où elle est naturelle, elle vient comme ça. Mais il y a beaucoup de philosophes expérimentaux qui sont intéressés à la variabilité dans les intuitions et qui ont étudié la variabilité tant au point de vue culturel entre les cultures. Et donc, il y a certaines intuitions qui varient. Par exemple, la distinction entre l'action et l'omission. Par exemple, le fait qu'il est moins grave de laisser mourir que de tuer activement, qui est un point de débat justement entre ce qu'on appelle en philosophie la déontologie et le conséquentialisme. Les conséquentialistes réfléchissent par rapport aux conséquences, donc ne voient pas de différence entre le fait de tuer et de laisser mourir. Ils refusent cette distinction. C'est pour ça qu'ils défendent l'euthanasie active comme un meilleur moyen que l'euthanasie passive, des fois. Tandis que les déontologistes pensent qu'il y a une différence significative entre les deux. Eh bien, cette différence intuitive, en fait, varie selon les cultures. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des études, par exemple, sur les Indiens mayas. Les Indiens mayas ne semblent pas voir de différence entre le fait de tuer et de laisser mourir un camarade. Tandis que si on donne les mêmes questionnaires à des gens dans des pays plus occidentalisés comme la France ou les États-Unis, il y a effectivement une différence entre tuer quelqu'un et le laisser mourir. Donc la philosophie expérimentale accepte l'idée de différence à la fois entre les cultures, mais aussi à l'intérieur des cultures. Il y a beaucoup d'études qui cherchent à montrer le fait que certains traits de personnalité sont corrélés avec vos intuitions morales. Et donc, bien sûr, différentes leçons sont tirées de ces études. Souvent, elles sont utilisées pour défendre une certaine forme de scepticisme par rapport à ces intuitions, qui est que si ces intuitions sont si variables que ça, alors quelle raison avons-nous de les considérer comme de bonnes bases pour la réflexion morale?
Et surtout, quelle raison avons-nous finalement de philosopher à partir de ça? C'est-à-dire que dans l'exemple que vous avez pris, où on peut dire que certaines sociétés seraient plus utilitaristes et donc agiraient au nom d'un bien réel, d'un effet qui leur apporte un bien concret réel, alors que d'autres seraient davantage déontologiques et donc agiraient en fonction d'une certaine idée du bien. Mais alors finalement, la philosophie n'a même plus lieu d'être, puisqu'on dit ça, on indexe des comportements sur une manière d'être, que celle-ci soit sociale, anthropologique, et finalement toute forme de philosophie devient un verbiage un peu inutile.
Ce serait la conclusion la plus sceptique à en tirer. Souvent, je pense qu'en fait, la raison pour laquelle nous avons besoin des intuitions en philosophie morale, c'est parce que nous n'avons justement rien d'autre. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer au début de l'émission, c'est l'idée que, pour l'instant, il me semble que tout projet visant à défendre une théorie morale sur la seule base des lois logiques, donc sur la base de la raison pure, aucun de ces projets n'a rencontré de succès pour l'instant. Peut-être un en trouvera un, mais disons que cette voie a été plus ou moins abandonnée. Et de la même façon, une théorie morale ne peut pas être défendue sur la seule base de l'observation empirique. Ce n'est pas parce que les gens pensent ou agissent comme ça que quelque chose est bien ou mal. Et donc, nous nous retrouvons avec ces certitudes partagées. Avant, dans la philosophie classique, en fait, le constat est le même, mais il y a des ressources pour défendre l'idée que ces intuitions sont des bonnes sources. Par exemple, chez Platon, c'est ce rôle que joue la théorie de la réminiscence selon laquelle nos âmes auraient contemplé la vérité en soi dans une vie antérieure. Et finalement, ces intuitions ne sont que des souvenirs de ces contemplations préalables. De la même façon, chez les cartésiens, il y avait toute la théorie des idées innées, qui était toute une machinerie pour expliquer pourquoi ces intuitions que nous avons sur la morale et sur les autres sont fiables. Et nous nous retrouvons maintenant à une époque où nous avons abandonné un peu... nous avons abandonné ces théories métaphysiques, mais nous n'avons toujours rien d'autre. Et l'idée, c'est qu'en philosophie morale, il semble qu'une sorte de quiétisme, d'abandon de la théorie soit quelque chose qui n'est pas permis, en fait. Dans le sens où les questions morales, les conflits moraux, politiques, les questions de droit se posent de toute façon dans la vie de tous les jours. Mmh. Ce sont des choses dans lesquelles nous sommes engagés. Et donc, que ces intuitions puissent ou pas être en définitive fondées sur quelque chose de très solide, quelle que soit la réponse à ces questions, de toute façon, il faudra faire de la philosophie morale. Donc il faut, et comme apparemment on n'a surtout que ces intuitions d'où partir, il faut bien faire avec. Ce que vise la philosophie expérimentale, c'est juste à aider un peu en disant, voilà, ces intuitions sont partagées ou pas et donc peuvent servir de point de départ dans le débat entre des gens raisonnables. Et ces intuitions sont stables ou pas, ou sont dues à des processus fiables ou pas, donc à aider un peu là-dedans. Mais effectivement, elle ne vise pas à fournir une fondation définitive. Elle vient juste dans l'état de la philosophie morale au XXe siècle, qui est tel que Rawls l'avait théorisé, qui est qu'en fait, la philosophie morale cherche surtout à mettre de l'ordre entre tous nos jugements immédiats, ce qu'il appelait nos jugements bien considérés. Le rôle de la philosophie morale, c'est de réussir à faire rentrer toutes ces intuitions à un tout cohérent, ce qu'il appelait l'équilibre réfléchi. Et ce que Rawls acceptait déjà, c'est que l'équilibre réfléchi entre les intuitions puisse être un équilibre réfléchi élargi, au sens où il prend en compte des données scientifiques pour départager ces intuitions entre elles.
Javert souffrait affreusement. Que faire maintenant ? Livrer Jean Valjean, c'était mal. Laisser Jean Valjean libre, c'était mal. Dans le premier cas, l'homme de l'autorité tombait plus bas que l'homme du bagne. Dans le second, un forçat montait plus haut que la loi et mettait le pied dessus. Jean Valjean le déconcertait. Tous les axiomes qui avaient été les points d'appui de toute sa vie s'écroulaient devant cet homme. La générosité de Jean Valjean envers lui, Javert, l'accablait. Javert sentait que quelque chose d'horrible pénétrait dans son âme. L'admiration pour un forçat. 20 fois, quand il était dans cette voiture face à face avec Jean Valjean, le tigre légal avait rugi en lui. 20 fois, il avait été tenté de se jeter sur Jean Valjean, de le saisir et de le dévorer, c'est-à-dire de l'arrêter. Il avait voulu passer outre, agir, appréhender l'homme, et alors, comme à présent, il n'avait pas pu. Et chaque fois que sa main s'était convulsivement levée vers le collet de Jean Valjean, sa main, comme sous un poids énorme, était retombée, et il avait entendu au fond de sa pensée une voix, une étrange voix, qui lui criait « C'est bien, livre ton sauveur, ensuite fais apporter la cuvette de Ponce Pilate et lave-toi les griffes. » Toutes sortes de nouveautés énigmatiques s'entr'ouvraient devant ses yeux. Il s'adressait des questions et il se faisait des réponses, et ses réponses l'effrayaient. Il se demandait « Ce forçat, ce désespéré que j'ai poursuivi jusqu'à le persécuter, et qui m'a eu sous son pied, et qui pouvait se venger, et qui le devait tout à la fois pour sa rancune et pour sa sécurité, en me laissant la vie, en me faisant grâce, qu'a-t-il fait ? Son devoir ? Non. Quelque chose de plus. Il y a donc quelque chose de plus que le devoir ?
Autre exemple, Florian Kova, autre cas particulier, autre expérience de pensée. Cette fois-ci, c'est Victor Hugo qui nous l'a fourni dans Les Misérables. Vous aurez peut-être reconnu le personnage de Javert qui, face à Jean Valjean, est en proie à un dilemme cette fois-ci assez terrible, parce que ce dilemme va remettre en question sa propre position morale. Lui-même est plutôt, disons, conforme à une intuition déontologique. Il faut remettre les criminels à la loi, il faut les livrer à la loi. Mais cette conviction est mise en doute par le fait que Jean Valjean vient lui sauver la vie. Et le texte termine sur cette phrase-là. Y a-t-il donc quelque chose de plus que le devoir ? Finalement, la question que pose le texte à travers cette question-là, celle de savoir, que se passe-t-il lorsque nos propres intuitions nous amènent à rejeter une doctrine morale, Florian Copin ?
Oui, tout à fait. Le texte de Hugo est intéressant, ceci qui montre effectivement la réalité du dilemme moral. Donc déjà, pour répondre à la question selon laquelle il y a quelque chose de plus que le devoir, ouais. C'est une question qui se pose classiquement en philosophie analytique à partir de deux questions. La première, c'est celle de ce qu'on appelle la surérogation, c'est-à-dire la possibilité d'actes bons, moralement bons, mais qu'on n'a pas le devoir d'accomplir. Par exemple, si je donne mon argent à une charité, certains pensent que je fais quelque chose de bon, même si je n'avais pas le devoir de l'accomplir. Donc ça, la plupart des gens acceptent l'idée que la surérogation existe, mais certaines théories morales effectivement rejettent l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose au-delà du devoir. Par exemple, certaines formes de consciencialisme pensent que ce que nous avons le devoir de faire, c'est ce qui apporte le plus de bien, de telle sorte que de toute façon, une fois qu'on a fait le devoir, on a épuisé ce qu'il y avait à faire de bien, et donc il ne peut rien avoir au-delà du devoir. Et il y a la question inverse de savoir si on peut faire quelque chose de mal qu'on n'a pas le devoir de ne pas faire. C'est la question symétrique sur laquelle il y a beaucoup plus de débats. Et là encore, est-ce que vraiment le mal peut déborder le domaine de ce qu'on n'a pas le devoir de faire est aussi une question posée en philosophie analytique. L'autre chose intéressante dans le texte de Hugo, c'est sa description psychologique du dilemme, c'est-à-dire quelque chose qui est vécu sur le modèle d'exigence morale contraire. Et c'est quelque chose qu'il est très important de souligner, parce que c'est quelque chose qui a été assez oublié, en fait, en philosophie morale expérimentale. Donc, je n'ai pas eu le temps beaucoup d'en parler, mais l'idée, c'est que les personnes qui ont étudié le dilemme du tramway ont essayé de défendre l'idée selon laquelle, en fait, les gens, quand ils réfléchissent, sont utilitaristes, sont conséquentialistes, pensent qu'il est bon de sacrifier une personne pour en sauver cinq, et que s'ils donnent la réponse opposée dans le cas où il faut pousser un homme sous les roues du train, c'est uniquement parce qu'ils sont biaisés par leurs émotions. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais il y a toute une gamme d'expériences faites en neurosciences, puis en psychologie, pour montrer que quand les gens donnent des réponses non utilitaristes, du genre « il ne faut pas sacrifier une personne pour en sauver cinq », les parties émotionnelles de leur cerveau sont suractivées par rapport à ceux qui donnent la réponse, on va dire, plus rationnelle, selon laquelle il est correct de sacrifier une personne pour en sauver cinq. Et il y a plein d'expériences montrant que quand on empêche les gens de réfléchir en leur faisant faire quelque chose en même temps ou quand on leur demande de répondre plus vite, ils sont effectivement moins utilitaristes.
Ce serait d'ailleurs intéressant de savoir s'ils donneraient la même réponse si on leur demandait si une personne permet d'en sauver 10 000.
Voilà, effectivement, ça a été fait. Dans ce cas-là, en fait, beaucoup plus de gens donnent la réponse utilitariste. Ouais. Il y a une sensibilité au grand nombre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que des gens ont essayé de défendre cette théorie, l'idée selon laquelle, en fait, l'utilitarisme, c'est une meilleure théorie. Parce que finalement, les intuitions utilitaristes sont celles qui pointent quand les gens réfléchissent et quand les gens sont biaisés par des réactions émotionnelles, ce qui dénote une mécompréhension des émotions qui sont forcément un biais, mais ça, c'est une autre question. Alors, ils sont déontologistes. Donc, il y a toute une argumentation en fonction de l'utilitarisme comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que si les gens étaient vraiment utilitaristes, ceux qui donnent, la minorité qui donne une réponse « oui, il est acceptable de pousser l'homme sous le train », alors ils devraient non seulement dire qu'il est acceptable de pousser l'homme sous le train, mais ils devraient dire aussi qu'on a le devoir de pousser l'homme sous le train, et aussi que finalement, si je pousse l'homme sous le train, alors je n'ai pas à me sentir coupable, il n'y a pas de problème, je n'ai pas fait un mal pour éviter un plus grand mal. Or, quand on interroge les participants, ce n'est pas du tout ce qu'ils disent. Contrairement aux conséquentialistes, les participants réintroduisent, comme Hugo, la dimension tragique dans le dilemme moral, dans le sens où même ceux qui disent qu'il faut sacrifier une personne pour en sauver cinq ne disent pas « alors j'ai fait ce qui était bien », mais « j'ai fait le mal pour prévenir le plus grand mal ». C'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilitaristes dans le sens où la solution qu'ils proposent va à l'encontre d'un devoir. Ils trouvent que cette situation entre en conflit avec les devoirs. Il y a quelque chose qui ne peut pas être réglé par la seule prise en compte du devoir, parce que c'est un vrai dilemme moral, il y a des devoirs contradictoires.
Merci beaucoup Florian Copin, en tout cas d'être venu nous parler aujourd'hui de philosophie expérimentale. Je renvoie à votre ouvrage « Qu'en pensez-vous ? Introduction à la philosophie expérimentale », une introduction très réussie, je dois dire, qu'on trouve aux éditions Germina. Et je rappelle que vous êtes chercheur en philosophie et psychologie au Centre interfacultaire en sciences affectives de l'Université de Genève. C'est pour le plaisir de redire ce titre que je trouve très joli.
starch collar and my high top shoes and my hair piled high upon my head. I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With this light brown derby and this bright green tie, he was quite the handsomest of men. I started to yen, so I counted to ten, then I counted to ten again. The trolley, ding, ding, ding went the bell, zing, zing, zing went my heartstrings, from the moment I saw him I fell.
Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Encore deux minutes papillon, il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui, comme tous les jours, vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
C'est Spinoza au programme aujourd'hui.
Oui, je vous parle de l'ouvrage qui s'appelle « Le meilleur ou le vrai, Spinoza et l'idée de philosophie » de Philippe Dalino et c'est paru aux publications de la Sorbonne. En novembre 1675, Spinoza reçoit une lettre d'Albert Berg, un physicien allemand. Dans sa lettre, Albert Berg reproche au philosophe d'avoir l'arrogance d'autoproclamer sa propre philosophie comme la meilleure et comme vraie. Spinoza prend la peine de répondre. Pour lui, il ne prétend pas avoir trouvé la meilleure philosophie, mais la vraie philosophie. Ce qui l'intéresse plutôt, c'est donc que sa philosophie soit vraie. Mais qu'est-ce qu'une philosophie vraie? Et puis surtout, comment définir la philosophie? Comment Spinoza définit-il la philosophie? Ce sont ces questions que soulève Philippe Dalino dans son ouvrage, un bel ouvrage d'ailleurs dans une très belle édition parue aux publications de la Sorbonne. Ce qui intéresse Philippe Dalino, c'est précisément l'idée de philosophie. Qui ressort l'idée de philosophie à partir de la philosophie de Spinoza. La philosophie est ici l'objet même du questionnement, ses traits, ses caractères, ses critères, ses buts et finalités. Or, la philosophie de Spinoza a un trait particulier par rapport à celle de ses contemporains. Il ne la définit pas en tant que telle. Il ne lui accorde pas une place particulière dans une sorte d'arbre de la connaissance. Il parle d'éthique, il parle de la liberté de juger, de la liberté de penser, mais on ne trouve pas de définition génétique ou générique de l'idée de philosophie dans son œuvre. Vouloir donc proposer une définition de la philosophie à partir d'une œuvre qui n'en parle pas, voilà qui relève de la gageure. Mais justement, Philippe Dalino déconstruit, grâce à Spinoza, l'idée que la philosophie puisse être définie de manière définitive et substantielle. La philosophie, si l'on suit Spinoza, ne doit finalement pas s'énoncer dans une définition, mais être une pratique, un effort qui s'autoproduit et rencontrer les autres savoirs.
Voilà des affirmations qui ont un sens tout particulier à l'issue de notre semaine sur la philosophie analytique. Géraldine, rappelez-nous le titre du livre.
Donc c'est de Philippe Dalino, ça s'appelle « Le meilleur ou le vrai, Spinoza et l'idée de philosophie » et c'est paru aux publications de la Sorbonne.
Merci Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, je recevrai Mehdi Belhaj-Kassem à propos de la publication de son dernier livre « Algèbre de la tragédie ». Mehdi Belhaj-Kassem qui sera accompagné de Tristan Garcia. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page du Nouveau Chemin de la Connaissance. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la podcaster, c'est-à-dire la télécharger, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54. C'est l'heure de retrouver Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florent Delorme.